RCF.
Nathalie Pijarmico, qu'est-ce qu'on peut dire de la fin de vie de Marie Curie ?
La fin de vie de Marie Curie, c'est plus la même personne. Avant la Première Guerre mondiale, Marie Curie avait le sentiment de ne pouvoir être utile socialement qu'à travers son laboratoire, qu'à travers la science. Comme je vous ai dit, c'était André Debierne qui s'occupait des étudiants. La guerre va prouver à Marie Curie qu'elle peut être utile à l'autre directement à son contact. D'ailleurs, elle va écrire ce petit passage très, très intéressant qui va montrer vraiment le bouleversement, du moins le changement psychologique de Marie Curie dû à la guerre. Elle dit « J'ai fait moi-même l'examen radiologique de plus de 1000 blessés. Parmi ces examens, il en eut de fait à toute extrémité où j'ai eu le bonheur de contribuer directement à sauver la vie d'hommes qui, sans ce secours, eussent été perdus à brève échéance. Dans tous les cas, j'ai retiré une grande douceur de la possibilité d'apporter un soulagement aux souffrances supportées avec tant de patience et de courage. » Donc voilà, c'est Marie Curie qui éprouve de la douceur à être utile à l'autre directement à son contact. C'est ce qui va mener, je dirais, la Marie Curie de l'après-guerre jusqu'à son décès. Et cette transformation va continuer à se faire. Donc dans les témoignages, on le voit, si au début elle est notée comme un personnage très sec, très sévère, assez froid, au fil des ans,
Elle s'adoucit
et on a des témoignages d'étudiants qui sont arrivés, je dirais, 2-3 ans avant son décès, qui disent qu'elle avait le comportement d'une grand-mère envers ses étudiants. C'est plus la même personne. Donc Marie Curie va être transformée par cette guerre et ses relations avec tout son entourage à l'Institut du Radium, qui est de plus en plus nombreux, on va passer de 30 à 64 personnes à la fin de sa vie, va être de plus en plus proche. Parce que déjà, son laboratoire, il est près des laboratoires des étudiants, dans le même bâtiment, et non plus éloigné comme à Cuvier, donc il y a une proximité physique. André Debierne est revenu traumatisé de la guerre. Il ne parle plus que par grognement, même s'il est toujours très gentil, il s'occupe moins des étudiants. Et surtout, Marie Curie s'est aperçue qu'elle pouvait être utile à l'autre et qu'en plus, elle en ressentait une douceur intérieure importante. Ce pourquoi, d'ailleurs, avec Claudius Regaud, qui est le co-directeur de l'Institut du Radium, elle va militer dès le retour de la guerre et même pendant la guerre, un petit peu, mais surtout dès le retour de la guerre, pour créer la Fondation Curie et installer un dispensaire de jour pour recevoir les patients du cancer.
J'aimerais que nous ouvrions un hôpital à l'Institut. Je crois que nous devons être plus ambitieux. Nous devons croire que notre radium peut servir le monde.
Ça nous permettrait de ne pas nous limiter à la recherche, mais bien de lier recherche et soins. Et c'est comme ça qu'on comprend. C'est comme ça qu'on avance. Je le vois tous les jours ici et les progrès sont considérables. Toute cette organisation qui a été expérimentée et améliorée à Bouleuse pour le traitement des plaies de guerre pourrait être appliquée au traitement du cancer.
Et vous pensez que mon travail sur le radium pourrait vous être utile ? Il fallait commencer par ça, docteur Regaud.
Attendez, vous proposez de
vous aider à mieux soigner, oui. Alors ?
Si je pouvais avoir des doses précises, sans fluctuation, toujours les mêmes, ce serait l'idéal.
Je travaillerai à ça.
Vous imaginez ? Avec les rayons X et le radium, j'aurai alors 2 armes pour attaquer le cancer.
L'application que Claudius Regaud souhaitait développer pour soigner le cancer, ça se poursuit bien sûr et les recherches progressent vite.
Non seulement les recherches progressent vite par une multitude de petites découvertes, mais en plus les moyens qui vont être mis dans ces recherches vont être encouragés. Imaginez que en fait cet institut du radium, il est effectif réellement qu'en 19, après la démobilisation des hommes, puisqu'il a été ouvert en 14, tout le monde est parti, c'est vraiment en 19 qu'il se met à fonctionner. Dès 19, il réclame la création de cette fondation Curie pour augmenter les laboratoires de l'Institut du Radium, recevoir des patients. Dès 20, ils réclament des extensions de leur laboratoire. Ensuite, ça va être un hôpital du jour. Donc, il y a des moyens et il y a des découvertes très importantes. Claudius Rego va lui-même définir, et d'ailleurs plutôt que la guerre, définir que en irradiant une tumeur d'un seul coup avec des fortes doses de radioactivité ou de rayons X, on va brûler tous les tissus sains. Donc, on va tuer la tumeur, mais on va tuer aussi les tissus sains. Donc, c'est lui qui va imaginer de séparer les doses de rayonnement et éventuellement
de les espacer
et éventuellement de passer par différents endroits pour atteindre la tumeur de façon à conserver les tissus sains. Il va travailler avec Fernand Holweck, un des protégés de Marie Curie, sur comment identifier, délimiter la tumeur de façon à ne viser qu'elle. Donc il va y avoir de plus en plus de découvertes dans le soin du cancer. Enfin, une des très très grandes découvertes va se dérouler dans le laboratoire de Marie Curie et va être faite par sa fille et son gendre en 34, juste avant son décès. C'est la radioactivité dite artificielle. Et ça, pour le cancer, ça va être d'une importance capitale, puisque le radium a une demi-vie de 1600 ans et quelques, je ne sais plus exactement le chiffre, donc très très longue. Pouvoir fabriquer des radioéléments qui ont une durée de vie bien moindre de quelques jours, quelques heures, c'est des radioéléments qui ne vont pas tuer les tissus sains pendant toute la vie d'une personne, mais qui vont se limiter à la tumeur.
Donc vous l'avez dit, Marie Curie meurt en 1934, épuisée.
Épuisée, c'est assez étonnant parce que, alors Irène Frein dit qu'elle avait aussi une maladie de Bremer, mais elle est morte de leucémie pernicieuse. On ne sait pas à l'heure actuelle encore si les rayons X durant la guerre ou la radioactivité qui ont miné complètement sa santé. Ceci étant, elle est décédée, elle a une très très forte constitution, Marie Curie, parce qu'elle est décédée à 67 ans, à une époque où l'espérance de vie était de 50. Donc,
une force de la nature.
Une force de la nature.
Une femme qui a travaillé toute sa vie et qui a travaillé dans des conditions et dans un secteur qui l'exposait beaucoup.
Qui l'exposait beaucoup, mais c'était aussi son choix, parce que quand on lui proposait des tabliers pour se protéger, elle en refusait.
La postérité de Marie Curie, donc son nom était connu. On a souhaité, immédiatement après son décès, faire en sorte que ce nom soit préservé et honoré.
Non,
comme elle le méritait ?
Non, pas du tout. En fait, le nom de Marie Curie a été, à partir de 34, totalement, de son décès, totalement occulté, là, par les Joliot-Curie, qui avaient reçu le prix Nobel en 35 pour la radioactivité dite artificielle. Et Marie Curie n'existait que étant la mère de. Puis ça va s'espacer, on le voit très bien dans le nombre d'articles et de publications qui sont faits sur Marie Curie. En 38, nous avons le livre d'Ève Curie, Madame Curie.
Donc sa deuxième fille.
Sa deuxième fille, qui va avoir un retentissement très très grand, publié en 78 langues, c'est bon. Et ça va s'arrêter. Les gens connaissent plutôt Marie Curie comme un personnage de roman, quelque part, à travers ce livre. Il faut vraiment attendre 67 et le centenaire de sa naissance pour qu'elle réexiste un petit peu. Mais surtout 95 et la panthéonisation de Pierre et Marie Curie, pour que Pierre continue à rester un petit peu oublié, mais que Marie Curie, elle, entre dans la mémoire nationale. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, qu'on va avoir tous les petits livres de jeunesse sur Marie Curie. C'est à partir de 95 qu'elle va rentrer dans les manuels scolaires. Avant, elle n'y était pas.
Pas avant.
Pas avant.
Ceci est le seul document sonore connu à ce jour où l'on entend la voix de Marie Curie. C'est un enregistrement qui date de 1921, lors d'un voyage aux États-Unis qu'elle effectue avec ses deux filles.
Du Collège américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie, pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible.
Pourquoi est-ce qu'on en a fait une icône, alors, d'après vous ?
On en a fait une icône parce que on arrivait à un contexte social où effectivement de plus en plus de femmes étaient représentées dans le monde politique, scientifique, donc la femme prenait de plus en plus de place dans la sphère sociale, et que il manquait politiquement une image
référence
à laquelle se référer. On a fait vraiment une icône de la femme scientifique. Alors cette icône, du moins cette transformation de l'image de Marie Curie, elle a été aussi affirmée par son voyage aux États-Unis en 21. Donc aux États-Unis, c'est une référence scientifique depuis plus longtemps qu'en France. Il y a eu énormément de travaux faits sur justement l'image de la femme scientifique à travers Marie Curie aux États-Unis avant qu'il soit fait en France. Et c'est une icône qui a été aussi créée par sa fille Ève Curie. C'est un livre totalement apologétique, mais c'est normal, c'est un livre d'une fille sur sa mère. Il est très orienté, très partiel, il est parfois un petit peu faux, mais surtout, il est très très bien écrit. Faut dire ce qui est, Ève Curie est une romancière d'exception. Moi je sais que je l'ai lu 3 fois, et les 2 dernières fois c'était juste pour chercher un moment, une citation, et j'ai pas pu m'empêcher d'aller jusqu'au bout après. Il écrit très bien. Et pour une première approche de la vie de Marie Curie, c'est un livre qu'il faut lire.
Un très grand merci, Nathalie Pijermico, de nous avoir parlé de Marie Curie. Donc, je rappelle que vous êtes responsable des ressources historiques du musée Curie et que vous êtes donc vous-même historienne, spécialisée dans l'histoire des sciences et plus particulièrement dans l'histoire des femmes en médecine et en sciences sous la Troisième République. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.